Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'épître de la messe d'aujourd'hui est empruntée à la première épître aux Corinthiens. Elle forme le commencement d'une partie qui traite en trois chapitres des dons spirituels. Les Corinthiens étaient riches de ces dons et rien ne leur manquait en ce genre de grâce, si bien que la bonne nouvelle s'en était trouvée dans cette jeune communauté chrétienne grandement affermie. C'est pourquoi saint Paul remerciait Dieu pour eux. En écoutant l'énumération de ces dons, on pourrait penser que les fidèles de Corinthe étaient très avancés en sainteté. Loin de là, la jalousie, la vanité, l'entêtement et d'autres défauts encore ne leur méritaient que trop l'épithète de charnel et empêchaient saint Paul de les traiter autrement qu'en enfants incapables de s'élever dans les hauteurs de la doctrine. Alors que faut-il entendre par ces dons spirituels ou charismes? Saint Thomas, dans son traité sur la grâce, se demande s'il est juste de diviser la grâce en grâce donnée gratuitement, c'est-à-dire les dons spirituels ou charismes, ou en grâce qui nous rend agréable à Dieu, ce qu'on nomme aussi la grâce sanctifiante ou grâce habituelle. Il appuie sa réponse affirmative sur l'autorité de saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens pour la grâce sanctifiante et dans l'Épître aux Romains pour la grâce donnée gratuitement. La grâce sanctifiante nous rend agréable à Dieu, c'est celle qui nous est donnée au baptême ou qui nous est redonnée par le sacrement de pénitence si jamais on a le malheur de perdre la grâce par le péché mortel. La grâce gratuitement donnée, explique saint Thomas, a pour but de permettre à celui qui la reçoit de contribuer à ramener un de ses frères à Dieu. Mais comme un homme ne peut accomplir cette œuvre par une action intérieure, qui est le privilège de Dieu seul, il lui faut instruire son semblable et le persuader par l'extérieur des vérités divines qui dépassent la raison. Pour y parvenir, il faut trois conditions, dit saint Thomas. Premièrement, avoir une connaissance complète de ces vérités divines, afin d'être capable de les enseigner. Deuxièmement, avoir le moyen de confirmer et de prouver ce qu'on dit, sinon l'enseignement sera inefficace. Troisièmement, avoir la capacité de communiquer cet enseignement aux auditeurs. Si on ne parle pas la même langue qu'eux, ce sera difficile. Ces trois conditions requièrent diverses qualités, et saint Thomas en déduit tous les charismes énumérés par saint Paul dans l'Épître. Tout d'abord, pour enseigner, trois qualités sont nécessaires. Il faut d'abord être certain des principes de la science qu'on enseigne. Pour la doctrine catholique, ces principes sont des vérités invisibles. Il faudra donc le don de foi. Il faut encore que celui qui va enseigner possède parfaitement les principales conclusions de cette science. D'où le don de parler avec sagesse, c'est-à-dire avec connaissance des vérités divines. Enfin, troisièmement, il faut abonder en exemples et dans la connaissance des effets qui permettent parfois de manifester les causes. On remonte des effets aux causes. Pour cela, il lui faudra le don de parler avec science. La deuxième condition implique aussi d'autres qualités. Donc c'est confirmer l'enseignement donné. Pour cela, soit il s'agit de vérités naturelles, alors on se servira d'arguments, mais quand il s'agit de vérités surnaturelles qui dépassent la raison, il faut confirmer et prouver par des manifestations de la puissance divine. Soit par des œuvres qui sont pour la santé du corps, ce sera la grâce des guérisons, soit par des œuvres qui montrent uniquement l'intervention de la puissance divine. C'est le don d'opérer des prodiges. Nous en avons une multitude d'exemples, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Dans l'Ancien Testament, nous avons par exemple Moïse qui fend les eaux de la mer Rouge avec son bâton. Josué qui arrête la course du soleil pour pouvoir terminer la bataille qu'il a entreprise contre les païens de la Palestine. Dans le Nouveau Testament, les exemples sont vraiment très nombreux. Au XIIIe siècle, nous avons le dominicain Saint Raymond de Peñafort. Il avait été requis par le roi Jacques Ier d'Aragon pour être son confesseur et il devait le suivre. Il était actuellement, en ce temps-là, dans l'île de Majorque pour lutter contre les musulmans. Seulement, le roi catholique n'était pas catholique en tout, il n'était pas très fidèle à son épouse. Malgré les conseils de son confesseur, il s'obstinait dans son infidélité. Alors Saint Raymond lui dit « Écoutez, je ne peux plus rester avec vous, je vais retourner à Barcelone en Espagne. » Alors le roi qui tenait à la présence de ce confesseur a donné des ordres à tous ses soldats, sous peine de mort, l'interdiction de transporter en bateau Saint Raymond en Espagne. Le saint s'adresse à ses compagnons et il leur dit « Le roi du ciel, pour confondre celui de la terre, saura me donner un bateau. » Alors il se dirige vers le port, suivi de ses compagnons. Il étend sa chape, il s'agenouille sur le premier morceau de la chape et avec son bâton, avec le dernier morceau de la chape, il fait une espèce de voile. Il invite ses compagnons à venir avec lui sur la chape, mais ils n'ont pas la même confiance que lui. Donc ils refusent. Et le voilà parti sur les eaux. Le roi, qui était mis au courant par la foule qui était là, vient au port et il aperçoit au loin Saint Raymond qui s'éloigne sur la mer. Et ce prodige, eh bien, l'a converti. Finalement, il est redevenu fidèle à son épouse. Saint Raymond va parcourir ainsi 200 kilomètres de Majorque à Barcelone en 6 heures. Et arrivé à Barcelone, il est tard, dans la soirée, les portes du couvent dominicain sont fermées. Il se rend au couvent et il rentre toutes portes closes pour rendre grâce au Seigneur et finir le reste de la nuit en prière. Donc, le miracle qu'il a accompli, eh bien, a permis de convaincre le roi de le ramener dans vraiment l'observance de la morale catholique. Au XVe siècle, nous avons Saint Vincent Ferrier. Vous savez qu'il prêchait devant des milliers de personnes chaque fois, avec des sermons qui faisait de nombreux miracles. Et dans ses sermons, il s'annonçait comme l'ange de l'Apocalypse, qui est chargé de prêcher, de préparer les âmes à la fin du monde. Alors ses compagnons dominicains lui disaient « Mon père, un peu d'humilité quand même, vous vous rendez compte, vous vous dites que vous êtes l'ange de l'Apocalypse ?» Et donc Saint Vincent dit « Oui, je vais vous le prouver. » Donc il envoie des hommes chercher au cimetière, on venait d'enterrer la veille une dame, donc il l'a fait déterrer, il emmène le cercueil au milieu de la foule, pendant le sermon, des milliers de personnes, et il commande à la dame « Madame, est-ce que je suis bien l'ange de l'Apocalypse chargé de prêcher sur la fin du monde ?» La femme se lève, parle « Oui, il en est bien ainsi, mon père. » Et elle meurt de nouveau et on la ramène au cimetière. Donc, vous voyez, par ce miracle, il a attesté de sa mission. Mais revenons aux moyens énumérés par saint Paul pour confirmer l'enseignement donné. Il y en a encore d'autres. Celui qui enseigne peut encore révéler ce que Dieu seul connaît. Comme les événements futurs, on a alors le don de prophétie. La plupart des saints ont eu ce don. Plus proche de nous, au XVIIIe siècle, au cours d'une mission donnée à Saint-Christophe du Ligneron, Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort fit une prophétie remarquable par la précision des détails donnés. Un fidèle, coupable de graves injustices, demandant restitution, changea de résolution sous l'influence de sa femme. Il refusa de s'exécuter quand le saint repassa quelque temps plus tard après la mission pour régler les affaires en détail. Le saint homme les menace, lui et sa femme, des châtiments de Dieu. « Vous êtes attachés au bien de la terre et méprisez ceux du ciel. Vos enfants ne réussiront pas et mourront sans descendance. Vous-même tomberez dans la misère et ne laisserez même pas après vous de quoi payer votre enterrement. Nous laisserons tout de même bien 30 sols pour faire sonner les cloches à notre sépulture, ricane la femme. Et moi, je vous dis, reprend le saint, qu'à votre enterrement, les cloches ne sonneront pas. Cette prophétie se réalisa à la lettre. Ses parents finirent dans la pauvreté et ne laissèrent que des dettes. Ils moururent tous les deux un jeudi saint, la femme 18 ans plus tard, en 1730, et l'homme 26 ans plus tard, en 1738. Tous les deux furent enterrés le vendredi saint, jour où on ne sonne pas les cloches. Comme autre moyen, le maître qui enseigne peut pénétrer le secret des consciences. On a alors le don de discernement des esprits, dit saint Thomas. Et nous en avons un bel exemple au XXe siècle dans la personne du padre Pio. Un franc-maçon vint un jour se confesser vers lui. Son intention était de se moquer de Dieu et de l'Église en inventant des péchés pour voir ce qu'allait dire le confesseur. Aussitôt qu'il commença sa fausse accusation, Padre Pio l'arrête net en lui disant qu'il connaissait son intention. Il lui énuméra ensuite les péchés qu'il avait réellement commis en mentionnant l'heure, le lieu et la manière dont il les avait commis. Le franc-maçon fut tellement confus que quelques jours plus tard, il se repentit de sa vie de péché et se convertit. La troisième condition, celui qui enseigne doit s'assurer qu'il sera compris de ses auditeurs. On aura alors le don des langues. Beaucoup de saints missionnaires ont été gratifiés de ce don. Dans les débuts de l'Église, beaucoup de fidèles récemment baptisés louaient Dieu dans des langues inconnues. C'est pourquoi il était nécessaire de saisir le sens des paroles, d'où le don d'interprétation des langues. Et c'est important. Vous savez qu'à notre époque, il y a eu du parler en langue dans les communautés charismatiques. Et on a quelques témoignages où justement, il y avait un parler en langue, en arabe ou en une autre langue qu'on ne connaît pas. Mais, pas de chance, dans l'assemblée, il y avait quelqu'un qui connaissait cette langue. Eh bien, ce n'était pas des louanges pour Dieu, c'était des blasphèmes. Donc, vous voyez l'importance d'interpréter les langues pour savoir si c'est vraiment un parler en langue à la louange de Dieu. Puisque nous voyons dans l'histoire de l'Église que la plupart des saints étaient doués d'un bon nombre des dons surnaturels que nous venons d'énumérer avec saint Thomas, on peut se demander s'ils sont nécessaires pour tendre à la sainteté. Autrement dit, quels sont les rapports entre charisme et sainteté ? Nous avons vu que la grâce gratuite est donnée pour l'utilité du prochain. Ce but peut être atteint, quelles que soient les vertus ou les défauts de celui qui reçoit le don. Les Corinthiens, remplis d'imperfections, jouissaient cependant largement des dons charismatiques. On peut se demander pourquoi. Eh bien, la conquête rapide de l'univers par l'Église demandait une action extraordinaire du Saint-Esprit, qui soit visible de tous. Alors bien souvent, le Saint-Esprit ne prenait guère possession d'une âme par le baptême sans manifester extérieurement la réalité de sa présence par des dons surnaturels extraordinaires. Et donc c'était un témoignage pour les païens. Il accomplissait ainsi la double mission qu'il avait reçue de notre Seigneur Jésus-Christ, de sanctifier en vérité les fidèles du Christ et de convaincre de péché le monde resté rebelle à la prédication apostolique. Quand la société fut devenue chrétienne, avec des évêchés, des paroisses, une société civile qui commençait à avoir des lois chrétiennes, ces manifestations extraordinaires n'étaient plus nécessaires pour la prédication de l'Évangile. Saint Grégoire l'explique ainsi. Lorsqu'on plante de jeunes arbres, il faut d'abord les arroser copieusement, jusqu'à ce qu'il ait pris racine. Une fois qu'ils ont pris racine, il n'est plus besoin de soins particuliers. La nature, avec la pluie et le soleil, suffit à leur croissance ultérieure. Il en va de même de l'arbuste de l'Église et de l'âme. Une fois qu'elles ont pris racine dans la vie surnaturelle, elles n'ont plus besoin de grâce extraordinaire. Le rythme de la liturgie leur suffit. En ce temps de chrétienté, Dieu suscite régulièrement, Dieu suscite régulièrement des saints pour attirer les âmes vers la sainteté. Pour cela, il leur accorde des dons extraordinaires qui attirent les regards et rendent les âmes attentives à leur enseignement, qui sont toujours un rappel de la doctrine chrétienne. Contrairement aux fidèles de Corinthe, les dons extraordinaires accordés aux saints sont bien souvent proportionnels à leur degré de sainteté. Le don surnaturel extraordinaire n'est là que pour révéler aux âmes chrétiennes imparfaites la sainteté vers laquelle ils doivent tendre. Ils ont un exemple de sainteté dans le saint. Mais s'il n'y avait pas de prodige extraordinaire, ils ne sauraient pas qu'il y a un saint. Fréquemment, les chrétiens confondent ces deux choses. Si la plupart des saints ont eu des charismes extraordinaires, ce n'est pas cela qui a fait leur sainteté. Nous en avons un exemple avec celle qui est considérée comme la plus grande sainte des temps modernes, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Dans sa vie, pas de choses extraordinaires, au sens des charismes énumérés par saint Paul, mais la pratique héroïque des vertus dans les plus petites choses de la vie quotidienne d'une carmélite. On pourrait dire une vie routinière, vue de l'extérieur, puisque une de ses sœurs se demandait ce qu'on pourrait bien dire d'elle après sa mort. Mais sa vie, combien elle était riche à l'intérieur, puisque son histoire d'une âme, qu'elle a écrite par obéissance, enseignera après sa mort à des millions d'âmes la petite voie d'enfance spirituelle qu'elle a pratiquée, la vie d'union à Dieu. Sa vie est une preuve de la supériorité de la charité sur les dons surnaturels extraordinaires. Elle nous montre que seul le développement de la charité par l'exercice des vertus fait les saints. La sainteté demandée par Dieu à tout baptisé, « Soyez parfaits comme je suis, comme votre Père du ciel est parfait », est à la portée de toute âme de bonne volonté, si petite, si imparfaite soit-elle. Sainte Thérèse était très, très impressionnée au début de sa vie religieuse par les charismes des saints. Elle aurait pu se décourager et se dire « La sainteté n'est pas pour moi ». Mais elle a compris et mis en pratique ce que saint Paul nous dit en substance dans la suite de l'Épître aux Corinthiens. Estimez tous ces dons, les dons qu'il vient d'énumérer. En eux-mêmes, ils sont l'œuvre du Saint-Esprit, qui enrichit par eux le corps social. N'en méprisez aucun, aspirez aux dons les meilleurs. Mais je vais vous montrer encore une voie plus excellente. Et l'apôtre leur donne sa fameuse hymne à la charité. La charité, c'est l'amour de Dieu et du prochain. Sainte Thérèse a trouvé sa voie, elle le dit. « Dans l'Église, ma mère, je serai l'amour. » Et cela l'a conduit à une très haute sainteté. Comme Sainte Thérèse, il nous faut pratiquer en tout la charité. Cela nous amène à faire fructifier des dons que le Seigneur nous a donnés. Ce ne sont certes pas des dons surnaturels extraordinaires, mais ce sont quand même des dons du Saint-Esprit, des fruits remarquables. Par exemple, bien connaître à fond la doctrine catholique et savoir en parler autour de soi, dans notre famille, dans notre milieu de travail. Mener une vie chrétienne bien conforme au décalogue et à l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Fonder une famille chrétienne avec de nombreux enfants bien éduqués. Diriger avec zèle des œuvres catholiques, une école, différents mouvements catholiques, un pèlerinage, etc. tous ces dons sont excellents s'ils procèdent de la pure charité et de l'humilité qui est le fondement nécessaire, essentiel. Il nous faut tout rapporter à Dieu et non à nous-mêmes. Alors, défions-nous de l'esprit superbe qui voudrait qu'on se glorifie dans ses œuvres, comme le pharisien de l'Évangile. Que notre cri de ralliement soit « Jésus-Christ est Seigneur », c'est-à-dire reconnaître sans cesse que tout est à lui et pour lui et que nous ne sommes que des humbles, que ses humbles instruments dans tout ce que nous entreprenons. Pour nous y aider, prions la très sainte Vierge Marie, que son cœur immaculé soit notre refuge et notre chemin pour nous conduire jusqu'à son divin Fils. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.